Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Arthur, roi de justice, présenté par Émilie Glory et Sylvain Ferriot. Bonjour Sylvain.
Bonjour Émilie et bonjour à tous les auditeurs.
Docteur en droit, on est très heureux de vous retrouver pour poursuivre cette exploration de la légende arthurienne avec toujours ce prisme de la justice. Dans l'émission précédente, on avait entamé la quête du Graal que nous reprendrons ultérieurement, on va faire une petite pause.
Parce oui, que c'est on a tout le temps, elle a duré au moins 10 ans, la quête du Graal.
Voilà, c'est un peu fatigant. On va se concentrer sur une notion que vous avez abordée lors de l'émission précédente et qui a piqué ma curiosité, la notion d'humiliation. Alors, en quoi c'est pertinent dans la légende arthurienne?
Je dirais que cette notion est plus que pertinente dans la légende arthurienne, elle est centrale. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en réalité, d'une, parce que le chevalier vit une existence d'obligation, d'exemplarité. Bon, jusque-là, on serait tenté de se dire que c'est assez logique. Mais aussi parce que le système juridique et le système philosophique, quelque part, est fondé sur les grands points qu'Aristote avait mis en valeur à une certaine époque, enfin à son époque, qui étaient les honneurs précédant les amitiés et précédant les richesses. Et on avait, je crois, expliqué il y a
un
certain
temps.
Oui.
Tout le monde s'en souvient.
Moi, j'espère bien que la richesse n'apportait pas les amitiés, parce que les gens riches pouvaient toujours avoir un certain nombre de faux amis qui accepteraient de les supporter le temps qu'ils puissent leur offrir des cadeaux, mais que le jour où ils étaient dans la misère, ces gens-là disparaîtraient aussi vite qu'ils étaient apparus. Le problème des faux amis des stars. La solitude des stars, c'est terrible. Mais les stars ont-ils de vrais amis? Bah, au moins, les amis sincères qu'on peut avoir au début de sa vie, quand on n'est pas une star, sont des gens qui vous connaissent. Et ces gens qui vous connaissent vont peut-être vous soutenir. C'est là qu'on les reconnaît, d'ailleurs. Les Anglais diront « friend in need is a friend indeed ». Donc un véritable ami, c'est un ami qu'on reconnaît dans le besoin. Ces amis-là vous connaissent, mais les gens qui ne vous connaissent pas ne peuvent vous connaître, enfin ne peuvent approcher, ou du moins s'approcher de vous, que par votre réputation. C'est là que l'honneur rentre en ligne de compte. C'est extrêmement logique, quelque part. Vous êtes riche, qu'est-ce qui dit que vous êtes quelqu'un de bien? Rien. Vos amis peuvent dire que vous êtes quelqu'un de bien, mais les gens qui vous connaissent pas ne peuvent rien dire. Et les gens qui vous connaissent pas, si jamais vous tombez en panne au fin fond, je sais pas, du Canada, et que vous vous retrouvez, ouais, je sais pas, perdu dans un coin, et que non, parce que c'est important, l'hospitalité est une règle obligatoire au Canada, du fait que ouais, qu'apparemment l'hiver, comme une maison tous les 50 km, si on refuse l'hospitalité à quelqu'un, c'est un délit. Ouais, c'est un délit.
Et ça peut mal tourner.
Ça peut être, ouais, c'est littéralement meurtre par imprudence. Ouais. Donc la situation. Au Canada, est clair. Mais bon, ouais, si vous êtes perdu dans un coin sombre et que vous avez besoin de quelqu'un pour je sais pas, dépanner votre voiture, vous donner un coup de main, enfin voilà, vous donner un matelas chaud pour la nuit, enfin un matelas, un duvet, enfin ce que vous voulez, quelque chose, et un petit grog, tant qu'à faire, tout le monde n'aura pas forcément envie de vous ouvrir la porte, sauf si vous avez une réputation qui vous précède, ce qui est le cas du chevalier. Le chevalier doit se comporter de façon exemplaire parce que, par ses armoiries, et ça c'est l'importance des armoiries du chevalier, on le reconnaît. Parce que finalement, la plupart des gens n'ont jamais vu la tête sous le homoum, et la plupart des gens n'ont même jamais vu à quoi ressemblait véritablement le chevalier dont on avait parlé. Parce que je vous rappelle que les actualités ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc,
c'est intéressant cette notion de pas reconnaître finalement le chevalier, parce que ça, justement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça paraîtrait impensable.
Oui, on voit tout à fait la tête que peuvent avoir les gens, les grands de ce monde, mais ils sont peut-être pas aussi accessibles, mais enfin, du moins, ils essayent, les chevaliers, eux, essayent de se rendre accessibles. Mais c'est un moyen, parfois, de se faire une idée claire. Il y a le meilleur exemple de cette humiliation, là, puisque je faisais le lien, et qui passe par la réputation du chevalier, une réputation qui passe par ses armoiries aussi, et qui est relativement mal maîtrisé dans la littérature, enfin dans les cours de français en général, parce que quand on fait lire les romans de la Table Ronde, parfois on fait lire le Chevalier de la Charrette. Et on oublie régulièrement l'histoire de la charrette et son aspect juridique et honorable, et honorifique. Parce que dans le Chevalier de la Charrette, on sait rapidement, bon, je récapitule, mais oui. Méléagant a enlevé Guenièvre. Guenièvre est au royaume de Gore. On a parlé précédemment dans l'émission précédente du royaume de Gore. Hein. Donc là, c'est un des neveux de Urien qui a récupéré le royaume, et c'est une crapule. Enfin voilà. Et donc, il a enlevé Guenièvre. Lancelot, qui est amoureux de Guenièvre, rappelons-le. Donc lui court après, et un jour rencontre un nain sur une charrette qui lui dit « Moi, je t'emmène, hein, pas de problème, mais tu montes sur ma charrette. » Et Lancelot hésite l'espace de deux pas. C'est précisé dans le texte. Il hésite l'espace de deux pas. Il marche un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, et finalement il monte. Et il est déshonoré. Alors pourquoi? Au départ, avec la lecture moderne, aucune raison. Personne ne monte dans une charrette en étant déshonoré. Aujourd'hui, si on devait faire le parallèle, on se dirait qu'une personne qui monte menottée dans un panier à salade pourrait être considérée comme... déshonoré. Bon, ça dépend, si on est en banlieue, ce sera un héros, mais si on est si on est dans une société normalement constituée, on se dira que ce type-là a fait quelque chose de relativement malsain. Et donc, on pourra se dire, peut-être qu'il a, il y a des raisons qui font qu'on l'a mis, qu'on l'a emprisonné, ou qu'on s'apprête à l'emmener justement pour l'interroger dans des situations qui sont relativement humiliantes. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que, en fait, à l'époque, la charrette tient lieu de véhicule pour l'exécution des condamnés. Donc une personne qui a ses armes, surtout si elle laisse ses armoiries sur la charrette, parce qu'en général, le chevalier humilié, et c'est ça l'intérêt de la question, le chevalier humilié était conduit parfois sur une charrette. Alors parfois, quand il avait commis quelque chose de très grave, pouvait être exécuté, mais c'était pas nécessairement la chose. Mais le fait de le balader et de l'humilier en montrant que ses armoiries étaient définitivement souillées maintenant et appartenaient à un félon, était un moyen justement de d'avertir la population. Alors la plupart du temps, on brisait aussi son éperon, c'était une possibilité qu'on avait pour montrer, ou son épée, pour montrer qu'il avait perdu tout honneur, et donc c'était une cérémonie publique qui avait lieu qui tenait lieu d'humiliation publique, et qui donc montrait la perte de l'honneur. Parce que il y a des règles en chevalerie, si vous ne respectez pas ces règles, cet honneur que vous avez gagné, je vous rappelle que cet honneur est un bien. Exactement, comme les amitiés, comme les richesses. Les amitiés se gagnent par pas évidemment par en les achetant, mais se gagnent en les méritant. L'honneur se gagne aussi en le méritant, par les hauts faits. C'est pas différent, selon la philosophie d'Aristote, que les richesses dont on a parlé précédemment. Donc, en ayant ces notions particulières en tête, on sait que ce qui se gagne peut se perdre et que l'honneur peut se perdre. Et c'est exactement ce qui arrive à Lancelot dans Le Chevalier à la Charrette. Et ça, c'est un des ressorts de l'histoire, c'est-à-dire que la plupart des chevaliers, dans tous les romans de la Table Ronde, vont se fonder sur cette dualité entre l'honneur et justement la honte, ou l'humiliation, ce qui revient exactement à ça. Ça a parfois un trait presque comique, d'ailleurs, dans certaines situations. Enfin, comique, parce que l'humiliation, parfois, est due à pas grand-chose. Parce qu'on va revenir à ce qui arrive à Lancelot, parce que ça, c'est quand même intéressant. Lancelot, donc, monte sur la charrette, il est humilié aux yeux du monde. Mais lui, il n'a pas le sentiment d'avoir perdu son honneur. En plus, quelques temps plus tard, on le voit à cheval, il a toujours les mêmes armoiries, et puis les gens disent « Regardez, c'est le chevalier qui a été humilié, mon Dieu !» Enfin, c'est donc certainement un félon qui a piqué les armoiries, ou du moins, c'est probablement un chevalier qui ne mérite pas son titre. Donc évidemment, il est humilié officiellement. Mais pas lui, enfin, pas dans sa tête. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de retrouver la reine. Et si la reine l'aime, de toute façon, il ne se sent pas humilié, parce que c'est la seule personne qui compte à ses yeux. Seulement, la reine le reçoit très froidement. Elle lui fait le reproche, et justement, Lancelot est humilié par la reine, pour une raison très simple, il a hésité l'espace de deux pas. Et ça se fait pas, Guenièvre, elle aime pas du tout cette idée-là. Et on lui a dit en plus, c'est sans doute le nain.
Alors ce qui est intéressant dans cette notion quand même d'humiliation, c'est est-ce que finalement c'est aussi une humiliation pour plus d'humilité ?
Certainement, parce que c'est toujours dans la légende et dans les récits, hein, de toute façon, les personnages se font humilier quand ils en ont besoin. Ouais. Et ça sert de ressort au récit. Aucun des grands récits de la Table Ronde n'échappe à cette idée de l'élément perturbateur qui vient s'interférer dans le récit. C'est-à-dire que si on reprend les quatre grandes histoires, voire les cinq avec Perceval, Lancelot vient d'en parler. Yvain, le chevalier au lion... Bon, au début, vit bien sa quête. Enfin, du moins, il arrive à la fontaine de Barenton, il bat le chevalier noir. La coutume voulant que la veuve d'un chevalier essaie de se retrouver le plus rapidement possible un mari. Alors, ça peut paraître bête, mais des fois, c'est justement le tueur et le vainqueur du chevalier du mari qui prend sa place. Alors, ça peut paraître horrible, mais c'est au départ à des fins de compensation. Parce qu'il faut qu'il y ait un protecteur, enfin c'est un conseiller. Parce que la femme peut faire beaucoup de choses au Moyen-Âge, mais se défendre, ce n'est pas toujours évident. Et il est conseillé d'avoir justement un chevalier pour pouvoir le faire. Donc des fois, c'est celui qui a commis l'irréparable qui va tenter de le réparer à sa manière. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est ce qui arrive dans Lancelot, dans Yvain. Et Yvain, donc, arrive à gagner l'amour de Laudine, qui est la dame, justement, de ses pensées. Dont on dit parfois que c'est une fée. Mais on expliquera plus tard que les fées sont des femmes de pouvoir. Je fais un petit teaser.
Un petit teaser, c'est bien ça.
C'est pour vous dire de suivre Rendez-vous jusqu'au bout.
En fin de saison.
Effectivement, on a encore un peu de temps, mais voilà. On en reparlera. Et donc, Laudine va aimer Yvain, jusqu'au moment où il va lui faire une promesse de partir, parce qu'il doit un peu aider le roi Arthur quand même, c'est bien gentil, mais à un moment, il est obligé de travailler. Et il lui dit qu'il va partir pendant un an à peu près, et qu'il reviendra au bout d'un an, ayant résolu quelques petits problèmes d'administration publique auxquels participent le roi et lui. Et en fait, au bout de 3 ans, il est toujours pas revenu. Au bout de 3 ans, elle a un peu, oui, elle l'a mauvaise, on dira. Et elle décide envoyer sa servante, qui revient avec l'alliance et qui lui jette à la figure. Et donc voilà, honte sur ta barbe, d'ailleurs, c'est l'expression qui est exprimée à l'époque. Yvain se rend compte que, évidemment, il a commis l'irréparable quelque part, qu'il a perdu l'amour de sa vie, et il devient fou. Donc il part dans la forêt, et c'est ça. Alors, on accorde à Yvain le fait qu'il soit le fils de Morgane, hein, c'est une possibilité. Urien et Morgane auraient convolé ensemble, et donc. Mais enfin bon, ce ne soit pas un mariage très heureux, mais peu importe. Le personnage qui est ancien sujet, c'est Yvain, qui est soigné par Morgane, justement par un onguen qui lui rend un peu la raison. Mais il est quand même humilié, il doit refaire tout le chemin qui va le reconduire à l'honneur. C'est à cette occasion-là qu'il va rencontrer son lion et qui va finalement revêtir une nouvelle identité, celle du chevalier au lion, dont personne ne connaît véritablement le nom, et à la fin parvenir, par une petite astuce, à obtenir le pardon de sa femme. Plusieurs autres expressions dans le Erec et Nid, on est dans une situation qui est un peu inversée et qui est assez intéressante aussi, qui est que Erec, justement, est un chevalier qui, au départ, a accompli pas mal, il a gagné la fameuse chasse au cerf blanc, qui est une chasse traditionnelle, mais qui, évidemment, est assortie d'un prix, et ce prix, c'est que le personnage qui parviendra à capturer ou tuer le cerf, on ne sait pas trop préciser, mais on va dire capturer, justement, bon, pour nous-mêmes, ça nous fait du bien de le penser comme
voilà,
ça.
Exactement.
Voilà, obtiendra la main de la plus belle femme de la cour. Enfin, la plus belle femme célibataire de la cour. Il se trouve que c'est Enide, voilà. Et Erec épouse Enide. Il est très content. Et tout se va bien. Seulement, on lui reproche. Et pas lui. Il va bien, il s'amuse, il convole. Voilà, il prend son temps. Il a quelques petits cocktails. Voilà, au bord de la piscine, dans le verger. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. Enide entend des bruits provenant d'autres chevaliers de la table ronde qui lui reprochent ce qu'on appelle la récréantise. La récréantise, être récréant, c'est pas tout à fait la même chose qu'être mécréant, mais c'est la même chose vis-à-vis de l'honneur. C'est-à-dire avoir complètement délaissé l'honneur et avoir complètement oublié sa vocation première. Et ce récréant, donc, ne fait plus l'office chevaleresque tel qu'il devrait le faire, donc il s'humilie quelque part. Enide entend ça. Et en fait, c'est un bruit qui court, mais c'est pas une humiliation officielle. Elle le dit à Erec. Peut-être que tu devrais, par moment, chevaucher avec Gauvin, qui trépigne devant la tente, depuis le temps qu'il attend, en dehors du verger. Je crois qu'il a un truc à te dire, mais j'ai pas envie. Mais si, fais-le. Parce que sinon, on va te traiter de récréant. Quoi ? Et c'est justement le problème, c'est que quand les bruits arrivent dans l'oreille d'Erec, il devient moitié fou. Et il va absolument prouver à Enide que c'est un vrai chevalier, que c'est toujours un vrai mec, en gros, qu'il est toujours digne des honneurs qu'on lui a accordés et d'avoir eu sa main. Et alors, pour faire ça, il l'attrape, enfin, puisque virtuellement, il la trimballe un peu partout et il lui fait. Il veut lui montrer les grandes aventures qu'il est capable de mener. Sauf que ce qui est intéressant et un peu comique dans le motif littéraire, c'est que Enide est beaucoup plus éveillée qu'Erec, et elle sait que souvent il va se mettre dans des situations dans lesquelles il a les chances de ne pas réchapper. Et c'est elle qui va parfois le sauver de la situation. Mais lui, à chaque fois qu'il s'en aperçoit, se sent encore plus humilié, donc il va en faire encore plus. Et à la fin, finalement, heureusement, il trouve une quête qu'il arrive à accomplir et qui le redore aux yeux de toute la chevalerie, donc aussi aux yeux d'Enide, qui n'avait jamais perdu de vue qu'il était toujours un bon chevalier. Mais bon, Erec avait du mal à le croire lui-même, donc il retrouve sa confiance et va pouvoir finalement se retrouver dans une situation « tout est bien qui finit bien ».
Est-ce qu'on n'est pas encore là aussi dans finalement le spirituel? Est-ce que cette notion d'humiliation, est-ce qu'il ne faut pas laisser pour le chevalier, laisser derrière soi des considérations d'ego purement humaines pour laisser la place à quelque chose d'un peu plus transcendantal?
La plupart des chevaliers ne sont pas capables de le faire, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui va distinguer, quand on a un petit peu lancé la question sur la quête du Graal, c'est ce qui va distinguer le chevalier terrestre du chevalier dit célestiel ou céleste, peu importe. Mmh. Mais l'expression vient du fait que le seul véritable chevalier, celui qui va aller jusqu'au bout de son investissement personnel, est celui qui va trouver le Graal ou qui va rechercher le Graal. Ça demande une renonciation totale à l'ego. C'est la véritable question qui ressort dans la quête du Graal. C'est-à-dire que le chevalier qui croit que c'est toujours une question d'honneur et de réputation et d'être le meilleur jouteur, ça c'est Gauvin notamment, parce que c'est ce qu'il croit pendant toute la quête du Graal. Et au moment de la mort, le roi Arthur, justement, enfin, qui est l'histoire finale, on dit que Gauvin a quand même trouvé le moyen de tuer à peu près une vingtaine de chevaliers. Parce qu'il voulait jouter, le gars. Et donc, il en croisait un, il pensait que c'était le but. Ah, je dois jouter, je joue. Alors il est arrivé, joute. Et donc, le chevalier en face le voyait arriver, se demandant ce qui se passait. Et le temps qu'il comprenne, il était déjà en palais, quoi. Donc, c'était une mauvaise manière de finir. C'est pour ça que Gauvin n'était pas digne du Graal. Lancelot n'était pas digne du Graal parce que son honneur et son affection, et du moins son amour-propre, se situaient pas au niveau de l'honneur chevaleresque social, mais au niveau de l'amour qu'il avait pour Guenièvre. Et donc, si Guenièvre le reconnaissait comme un personnage honorable, il était honorable, le Graal derrière, ça restait secondaire. Ce qui a fait dire que, finalement, le véritable Graal de Lancelot, c'était Guenièvre. Et puis on a des personnages qui vont montrer justement ce développement-là, qui vont arriver à un grade de chevalier honorable par leurs accomplissements, mais le meilleur exemple étant Perceval, qui commence par bourde sur bourde sur bourde, parce que monsieur a respecté les règles d'honneur telles qu'il les a comprises, et ainsi qu'est dictée par sa chère maman qui lui a expliqué des choses relativement claires, mais il a tout compris de travers, ce bougre d'âne batté, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le niaiseux, donc, Perceval, hein, on sait qu'il est pas malin, donc, il va accumuler les gaffes, et jusqu'au moment où il va accomplir la gaffe finale qui va lui permettre de passer à côté du Graal alors qu'il l'avait sous les yeux. Bon, ça, c'est un grand classique qui est connu dans la littérature. Dans la version de Perceval, lui-même va faire tout le chemin inverse, va petit à petit parvenir à résoudre tous les conflits et tous les problèmes qu'il avait créés pour redevenir ce chevalier. Donc il refait le chemin par là, justement le chemin terrestre, puis avant de faire le chemin spirituel qui va lui permettre justement de se défaire totalement d'un ego personnel et de la question d'honneur pour arriver à une forme de spiritualité. L'exemple le plus absolu de cette spiritualité, c'est Galahad qui va l'incarner. Alors Galahad, c'est la version suivante, c'est-à-dire que vous avez une version avec Perceval, et puis vous avez à la suite d'une copie, étonnamment falsifiée par un moine copiste, justement, un personnage de Galahad qui apparaît et qui va créer tout un embranchement de la légende arthurienne, dans lequel les chevaliers qui mènent la quête du Graal ne sont pas un, mais trois. Vous avez Perceval, toujours. Vous avez un autre personnage qui s'appelle Bors, ou Bort, ça dépend comment on veut l'appeler, qui lui a commis un jour l'adultère, l'affreux Jojo, comme la plupart des chevaliers d'ailleurs, enfin voilà, et qui le regrette amèrement, et qui va petit à petit... là, on est sur les amitiés, hein, c'est plus les honneurs qu'il a violé, mais les amitiés, et l'amitié de sa femme en fait partie, et qui va redevenir un chevalier honorable, parce qu'il va effectivement sauver les meubles en ayant... D'ailleurs, connu quelques difficultés. À un moment, il doit faire le choix entre sauver un innocent et aider son frère. Enfin, ce sont des choses comme ça qui sont... Et son frère va lui reprocher. Bon, ce sont des situations assez compliquées qu'il va devoir, justement, pour se défaire de cet égo-là. Quant à Galahad, il n'a pas d'égo du tout. Lui, c'est un saint. Alors voilà, c'est pas compliqué. Ce type-là, il est tellement pur, tellement chaste et tellement passionnant qu'on peut résumer sa vie en quelques secondes et dire qu'il a été créé accidentellement par Lancelot, qui a été piégé par la fille du roi pêcheur. Voilà. Et donc ce serait le fils de Lancelot et de la fille du roi pêcheur qui aurait été créé pour trouver le Graal finalement, c'est le Terminator du Graal, voilà, il est là, il a été créé pour ça et puis rien ne pourra l'en dissuader. Et donc voilà, il tape à toutes les portes et il demande si le Graal est là, voilà, bon, de l'autre côté, donc une fois qu'il a accompli ça, à chaque fois, vu qu'il est particulièrement chaste, saint, etc., à chaque fois qu'il est mêlé à une bataille, alors là, on a des descriptions qui sont relativement claires et relativement expéditives. Il arrive dans la bataille, tous les chevaliers s'affrontent, tatata, lui il arrive au milieu et blam, il fout tout le monde par terre. Voilà, hop, c'est réglé. Bah ouais, personne ne peut le toucher, il irradie de la puissance divine, littéralement. Donc là, on voit que le côté spirituel, toute la question de l'honneur, des combats matériels, de tout ce qui a été, de tout ce qui a fait l'aspect politique, l'aspect tout simplement réaliste aussi de la légende arthurienne, est balayé d'un revers de manche par la personnalité de Galahad, qui est là juste pour la spiritualité et qui va trouver le Graal, Et une fois qu'il a trouvé le Graal, il va faire quelque chose d'exceptionnel, il va mourir. Voilà, c'est simple. Parce que lui, la vie éternelle, c'est comme ça qu'il l'a obtenu. Donc, il a bu le Graal et boum, raid. Voilà. Et donc, après, il n'y avait plus qu'à, qu'à ramener le Graal en terre. D'ailleurs, il le ramène sur la terre de sa race. Sarrasin, c'est la même idée. Peut-être Jérusalem, on ne sait pas trop. Et ce Graal restera enfoui jusqu'à ce que Indiana Jones le trouve. Enfin bon, vous avez compris l'histoire. Et entre-temps, bah, évidemment, les deux personnages qui restent, Bors et Perceval, eux restent des personnages qui sont des personnages terrestres, donc qui ont trouvé l'illumination, parce qu'eux aussi vont voir le Graal et pouvoir y accéder, mais qui vont complètement ignorer toutes les aléas et les mésaventures de la chevalerie terrestre après. Donc on a cette notion, effectivement, que l'humiliation, la perte de l'honneur, pas servir à une nouvelle construction. Mmh. C'est aussi pour ça que le chevalier qui est humilié ne meurt pas. Le but du jeu, c'est qu'il puisse réparer sa faute. D'une, parce que c'est une question de justice. Oui. De deux, parce que c'est une question de spiritualité.
Et puis oui, il y a une idée de rédemption aussi derrière. Oui. Et ça nous permet aussi, à nous, lecteurs, de nous identifier peut-être encore davantage à ces personnages qui ne sont pas infaillibles.
Sauf Galahad, oui. C'est peut-être sauf le personnage...
qui est agaçant, décidément.
Oui, il a un côté monsieur parfait, je sais tout, voilà, non, c'est... C'est pas amusant. Perceval est beaucoup plus amusant. On se reconnaît beaucoup plus dans Perceval. On se demande si on aurait fait les mêmes gaffes que lui. Enfin, voilà, on aurait pu peut-être. Et puis Perceval, finalement, c'est aussi le néophyte qui arrive dans le monde chevaleresque. Aujourd'hui, si on avait si on avait accès à ce monde, si derrière Disneyland se cachait une terre inconnue, je ne sais pas, qui est dans lequel il y aurait véritablement un roi Arthur, qui comment est-ce que réagirait le personnage qui ne connaît rien à la chevalerie? Est-ce qu'il ferait les mêmes bourdes que parce que n'oublions pas que c'est une vie d'obligation, c'est une vie dans laquelle l'honneur se gagne, mais il se perd extrêmement vite aussi. Et tout manquement à l'honneur chevaleresque, et c'est pas mal de choses, hein, c'est lâcheté, injustice. Manque de courage, désintérêt aussi, manque de compassion pour autrui, absence de défense du faible, de la veuve, de l'orphelin, et puis manque à l'hospitalité, manque aux amitiés, manque à la parole donnée, enfin ouais, c'est quand même pas, c'est quand même exigeant, hein. On est loin de la vie politique française là, on est dans une situation où il y a vraiment des exigences au programme, donc est-ce que ce chevalier-là correspond aujourd'hui au modèle qu'on pourrait se représenter, bon, on pourrait se représenter un chevalier, un personnage qui serait relativement carré, relativement respectueux de ses obligations, enfin un vrai personnage honnête, un parangon de vertu, c'est l'idée d'ailleurs du chevalier. Est-ce que ce chevalier existe? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui quand on pense. Mais le but du jeu, c'est aussi que nous perfectionnions dans la voie de la chevalerie, car c'est ce qui compte en fait.
Je voudrais peut-être, pour terminer cette troisième émission de notre saison 2, faire une petite parenthèse, parce que ce qui est frappant dans cette notion d'humiliation, et vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir des ressorts parfois un peu comiques, et on observe autour de la légende arthurienne, de façon contemporaine, le travail par exemple des Monty Python sur Sacré Graal, ou la série télévisée Kaamelott en France il y a quelques temps, joue sur ces ressorts comiques. Donc c'est pas une idée farfelue finalement de voir la légende arthurienne aussi sous ce prisme-là, parce qu'il y a des vrais éléments comiques finalement.
Il y a un certain nombre de romans arthuriens qui se prêtent très bien à la comédie, et quand on pense aux séries modernes, dans le Monty Python, on a un comique de personnage, le personnage chevaleresque est quand même utilisé de manière à le rendre assez comique, parce que dans sa quête ou dans ses aspirations, on voit pas très bien où est-ce qu'il se rend. Après, il y a le côté intéressant chez Galahad aussi, où le côté chaste de Galahad est souvent battu en brèche dans l'histoire des Monty Python, dans Sacré Graal. Et il y a aussi dans Kaamelott un comique de caractère qui représente assez bien certains personnages. Pas toujours... après, je ne reconnais pas forcément tous les personnages qui sont décrits. Quand on présente Caradoc comme un goinfre, il n'y a pas d'indication. Tout ce qu'on sait, c'est que Caradoc a un bras plus gros que l'autre. Je ne pense pas que ce soit forcément un bras qui lui pousse du ventre. Mais la question donc reste un peu posée. Après, c'est pareil pour Gauvin et Yvain, qui sont présentés un peu comme les neveux du roi Arthur, donc des espèces de petits garnements un peu idiots. Mais en soi, Gauvin et Yvain sont des neveux du roi Arthur qui sont quasiment aussi âgés que lui, voire plus. Donc on est dans une optique complètement différente. Mais en revanche, quand on pense à Perceval, quand on pense à quelques personnages qui sont ou Lancelot, les personnages sont assez bien vus quelque part. On imagine bien Lancelot se ronger son frein en voyant un Arthur qui finalement est avec Guenièvre et puis connaît les affres de la routine matrimoniale, et Lancelot qui aimerait bien se retrouver à la place d'Arthur, ou Perceval qui fait bourde sur bourde. On reconnaît des personnages qui sont effectivement connus dans la légende arthurienne. On a d'autres personnages connus dans la légende arthurienne qui sont vraiment D'ailleurs, qui sont quand même assez comiques. On a un comique de caractère poussé. Je peux parler de trois personnages qui sont intéressants. On a Kay le Sénéchal, d'abord, Kay ou que le Sénéchal. Alors, lui, qui a comme particularité d'être un gars qui parle trop. On en connaît d'autres. Voilà, donc, on dit qu'il est gabeur. Ça, c'est le terme médiéval. Donc, il balance des vannes, en gros, et il est tout le temps en train de dire des méchancetés sur tout le monde. Ce qui lui vaut le fait d'être un peu brocardé par les autres en disant que, bon, il est dans la nature de Kay de parler et de gaber comme il est dans la nature du foin ou du fumier de puer et des guêpes de piquer. Voilà, c'est l'idée que ce gars-là ne peut pas se contenir. Et ça lui vaut beaucoup de problèmes. On a un autre personnage qui est Sagremort, qui lui, comme caractéristique quand même, c'est... on l'appelle le desserré ou le démesuré. C'est-à-dire que globalement, c'est un personnage qui est au départ calme, qui veut pas trop se battre, qui se lance dans la bataille, qui se prend baffe sur baffe, et qui se retrouve la plupart du temps à la limite de la mort, hein, faut le savoir. Et là, c'est son pouvoir particulier, c'est-à-dire virtuellement, c'est ça. Et là, il s'énerve. Donc, il se rebiffe, il remonte à cheval, il claque tout le monde et il tombe dans les pommes, dans le coma pendant un certain nombre de jours. Il s'en sort toujours, mais c'est miraculeux, en sachant qu'il a commencé à se faire bien gifler avant et que s'il se fait pas bien latter, il est pas heureux. Donc c'est un personnage aussi qui est assez comique. Et le troisième qui est moins connu mais qu'on retrouve dans beaucoup de situations, notamment chez Mallory, c'est le dénommé Dagonet, qui est un peu le bouffon de la cour d'ailleurs en fait. Mmh. Hein, il est reconnu comme étant un chevalier bouffon, ce qui est un peu étonnant, mais il en faut bien. Et ce personnage-là, c'était aussi un personnage qui va accomplir que des exploits usurpés, en réalité. Il fait croire à un moment qu'il a battu Gaerier ou Gareth, ça dépend du nom qu'on lui donne, un des frères de Gauvin, alors qu'en réalité, quelques minutes plus tard, le gars revient à la cour. En fait, tout ce qu'il avait fait, il avait volé ses armes pendant que l'autre dormait. Voilà, c'est le genre de comportement. Et donc, c'est un menteur pathologique. Donc, on a souvent du comique tiré de ces personnages-là. Dans certaines situations, les personnages sont assez marqués au niveau à nouveau comique. Les comiques de situation sont fréquents dans la légende arthurienne. Ça va surtout se manifester à la fin de la littérature arthurienne, avec Mallory notamment. Quand on lit du Mallory, une fois sur deux, c'est le détournement des règles chevaleresques plutôt que la réplication. C'est-à-dire qu'un chevalier, par exemple, bénéficie des règles de l'hospitalité chez son hôte, et l'hôte lui propose, comme il s'y est à un hôte bien séant, s'il a besoin de quelque chose, je peux te donner tout ce que tu veux, pas de problème. Enfin, tout ce que je suis en mesure de te donner, je te le donne, tu me demandes. Et l'hôte, tu réponds, dans ce cas-là, file-moi ta femme. Voilà, ce genre de situation où l'hôte est obligé d'accepter, bien sûr. Seulement, dès que les règles de l'hospitalité ne s'appliquent plus, l'ancien hôte qui voit le chevalier partir envoie ses troupes à la suite du chevalier pour tirer vengeance, quoi. Là, ce genre de situation.
On est loin de l'honneur chevaleresque.
Là, on sort. Mais c'est la fin. C'est là qu'on commence à voir que ce système, malgré toutes les bonnes intentions qu'il sous-tende, manifestement, peut être détourné comme tout, malheureusement. Il en va de même pour toutes les règles, et c'est bien le problème des règles.
On va se quitter sur cette réflexion qui va nous laisser méditer un petit peu tout ça. Sylvain, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, on peut bien sûr vous réécouter sur le site internet www.radiograndciel.fr.
Forever, my love. Forever, my husband. Consent and love. Forever, my.